de Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 32 d'abord, et puis ensuite du verset suivant qu'on lira après. D'abord, nous lisons Luc chapitre 24, verset 13 au verset 32. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 65 stades. 65 stades, ça correspond à peu près à 185. C'est 60, hein? 60, ça correspond. Donc, il faut multiplier 60 fois 185 pour avoir à peu près la distance, hein? Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui y est arrivé ?»« Ce qui y est arrivé ces jours ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, les non-magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et la leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture? Voilà le résultat d'un bout de chemin que ces deux hommes ont fait avec Jésus le ressuscité. Voilà l'effet que notre cheminement avec Jésus devrait nous faire. Un cœur ardent, un cœur brûlant, une passion pour Dieu. C'est le titre que je donne à mon message aujourd'hui. Dieu, une passion. Dieu, ma passion. Ces hommes sont tristes. Ils viennent de vivre un événement tragique, la mort de leur héros. Leur héros, c'est ce Jésus, le prophète puissant, envoyé par Dieu pour délivrer Israël. Le héros est tombé, assassiné, crucifié par la classe religieuse, les principaux sacrificateurs et la classe politique, les magistrats. L'espoir d'Israël est mort. Mais on raconte par des dames qui seraient peut-être pas morts. Peut-être vivant encore. Et voilà toute cette situation qui fait l'objet de la discussion entre ces deux hommes. Et au moment où ils sont encore en train de discuter, eh bien, Jésus leur apparaît. Jésus se présente à eux. Et le voilà qui vient vers eux. Et Jésus les rejoint dans leur marche. Et il les rejoint et s'intéresse à ce qu'ils disent. Et la suite, vous le voyez, il va leur répondre. Nos cœurs notre cœur brûlait-il? Ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ce texte est magnifique. Ce texte est magnifique et riche en beaucoup de choses et il y a tellement de choses à dire dans ce texte. Mais ce matin, je voudrais simplement avec ce texte indiquer deux choses. Premièrement, comment naît la passion pour Dieu dans nos cœurs, dans le cœur d'un croyant? Comment est-ce qu'il prend naissance? Deuxième chose, quels sont les effets d'un cœur passionné? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur passionné, dans un cœur passionné? Comment la passion pour Dieu transforme l'engagement du croyant? Deux petites choses, j'espère que je pourrai le dire dans un exercice de 10 minutes. Bien. Comment le texte nous présente la manière dont une passion peut naître pour Dieu dans notre cœur? Eh bien, ce texte ici pointe du doigt deux choses qui amènent la passion de Dieu dans notre cœur. La première chose, vous l'avez vu, c'est la présence de Jésus. Dans leur conversation, les voilà rejoints par Jésus. Et la deuxième chose, c'est l'éclairage de la parole de Dieu. C'est l'explication de la parole de Dieu. Deux choses, la présence de Jésus et l'éclairage que Jésus apporte sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Jésus vient les rejoindre sur leur route, leur chemin. Il n'était pas avec eux au départ, mais il vient les rejoindre quelque part. Et c'est ce qui se passe dans notre vie, n'est-ce pas? Nous cherchons Dieu. Et quand nous cherchons Dieu, il se laisse trouver à nous. Quand nous faisons de Dieu l'objet de notre préoccupation, alors Dieu se révèle à nous. Pour que la présence de Dieu soit manifeste dans notre vie, il faut qu'on la cherche, il faut qu'on la désire, il faut qu'on en fasse un sujet de notre préoccupation. Ces hommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie. Peut-être étaient-ils des pêcheurs, peut-être étaient-ils des cultivateurs, j'en sais rien. Mais ces hommes ont suivi Jésus. Leur vie quotidienne était une vie ponctuée par des moments qu'ils passaient auprès de Jésus. Je ne sais pas quelle fréquence, mais ils étaient en train de suivre Jésus tous les jours. Ils suivaient tellement Jésus qu'ils connaissaient quand Jésus a été crucifié. Ils savaient ce qui s'est passé autour de tous ces bruits sur la résurrection, parce qu'ils étaient intéressés par Jésus. Ce matin, peut-être c'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que Jésus fait-il partie de mon quotidien? Est-il le centre d'intérêt de ma vie? Est-il quelqu'un qui, dans ma vie quotidienne, fait l'objet de ma recherche? Il y a des gens qui cherchent l'argent tout le temps. Et ils raisonnent incroyablement bien sur l'argent. Ils savent exactement combien coûte tel produit, combien coûte une journée de dépenses. Ils savent tellement bien l'argent et ils savent toujours trouver les opportunités. Où est-ce qu'il y a l'argent qu'on peut gagner? Il y a des gens qui sont des politiciens, qui cherchent la gloire et ils ont une énergie incroyable pour pouvoir savoir où est-ce qu'il faut aller, comment il faut aller, où trouver les informations, comment manipuler, etc., pour avancer. Ils passent leur vie et leur temps en politique, toujours accrochés au téléphone, en train de répondre, de parler, de cliquer. C'est leur passion, c'est leur vie. Où est la place de Jésus dans notre quotidien? Parce que, selon la place qu'il occupe dans notre quotidien, alors, sa présence sera manifeste dans notre vie. Plus je vais le désirer dans mon quotidien, plus il va être présent dans mon cœur. Et s'il est présent dans mon cœur, alors sa parole va être de plus en plus claire pour moi. Je vais de plus en plus comprendre le sens des Écritures. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour... Est-ce qu'on ne fait pas déjà assez? Est-ce qu'on ne fait pas déjà assez, nous? Allez, sérieusement, vous faites déjà assez, non? Jésus, n'est-ce pas, est dans votre vie quotidienne? Non, non, oui. Vous faites déjà beaucoup, non? Vous pensez tout le temps à Jésus. Je pense à Jésus, je pense à Jésus, je pense à Jésus. Au risque d'avoir mal à la tête. N'est-ce pas? Non, non. Comment aujourd'hui nous pouvons courir après lui dans les rues, dans les rues des villages et des villes de la Galilée et de la Judée? Comment on peut encore courir après Jésus? Il n'est plus sur la terre. Alors comment je peux faire de Jésus ma vie quotidienne en le suivant partout où il est, en écoutant ses enseignements? Comment je peux le faire? Non, aujourd'hui, nous pouvons mettre Jésus dans le cours de notre vie, dans le cours de notre vie. Oui, on ne va pas peut-être le faire en courant après lui puisqu'il n'est plus là, mais nous pouvons l'associer dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons faire notre vie comme si c'était pour lui. Ah, comme si c'était pour lui. Mes études, mon travail, mes relations, mes lectures, ma télévision quand je la regarde, tout ce que je le fais comme si c'est pour lui. Je le fais comme si il avait un droit de parole, un droit d'apprécier ce que je fais. Je le fais comme si c'était avec lui. Aujourd'hui, je peux vivre comme si j'étais en train de me promener avec Jésus, comme s'il était à côté de moi, en train de marcher avec moi, en train de parler avec moi, dans toutes les décisions que je prends, dans tous les choix de ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Je vais acheter maintenant des oranges. Qu'est-ce que tu penses? Ah, j'achète très bien. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous pouvons cheminer avec Dieu. Et le point le plus important dans lequel on peut véritablement cheminer avec Jésus, où Jésus vient nous rencontrer, c'est dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Mes amis, moi j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Dans ma petite voiture, quand je vais au travail, j'ai un jour où j'arrête ma radio. Je dis à la radio, tais-toi, je ne vais pas t'entendre aujourd'hui. Je ne veux rien entendre d'ailleurs. Et ce jour-là, dans mon volant, je parle avec Dieu. Je parle avec Dieu de tout et de rien. Je lui fais part de mes préoccupations, de mes joies, de mes peines. Mes amis, je vais vous dire une chose. C'est le jour où je reçois le plus d'éclairage sur les choix que je dois faire et sur la compréhension de la parole de Dieu. Si vous ne me croyez pas, faites-le. Mettez un temps à part. Mettez un temps à part. Passez une journée avec Dieu. Parlez avec Dieu. Vous allez voir. Vous allez comprendre que, waouh, mais, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Et vous allez voir clair pour les décisions, les choix à faire dans la vie. Nous, on s'affaiblit. Pourquoi? C'est parce que on veut prier légèrement. On veut prier juste comme ça. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Point barre, ça s'arrête là. On ne prend pas un temps à part avec Dieu. Un temps d'intimité, sérieux avec Dieu. Seigneur, rien que toi et moi. Je n'ai pas de montre, je n'ai pas de truc, j'ai juste toi et moi. Et j'ai juste à te parler, je veux te parler, Seigneur. Je l'ai expérimenté, mes amis. Ce jour-là, je reçois énormément de choses. Je comprends énormément de choses. Et quand je me mets à noter tout ce que j'ai reçu dans la prière, je suis étonné de toute la richesse que cela a. Est-ce que Jésus est dans notre quotidien, à travers notre prière? Priez pas, mes amis, pas prier en fermant les yeux quelques secondes, mais vraiment en priant, en réalisant qu'il est Dieu, en réalisant qu'il est présent au milieu de nous, qu'il est vivant, qu'il est là. Quand je lis ma Bible, je ne lis pas simplement pour connaître les lois, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. C'est pas ça mon but quand je lis ma Bible. Quand je lis ma Bible, je cherche Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux communier avec lui. C'est lui qui dit, n'est-ce pas, Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair, elle ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a une communication de la vie dans la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un livre pour étaler son savoir. Ouais, je vais vous dire. Une fois, j'ai discuté avec un de mes beaux-frères. Il connaissait mieux que moi certains détails de la Bible. Il connaissait mieux que moi. Il dit, ah oui, attends. Et puis moi, j'étais tout ridicule. Je lui ai dit, tu es un pasteur et tu ne connais pas ça. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai, quoi. C'est honteux, ça, un pasteur qui ne connaît pas ça. Et puis au fond de moi, une voix m'a dit, mais ce que toi, tu sais, ça te permet de vivre une relation avec Dieu. Le peu que toi tu sais t'aide à construire ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Mais lui, ce qu'il sait, ça l'aide à se vanter et à dire, moi je sais telle chose. Plus je vais lire, je vais prier, je vais chercher Dieu dans ma prière, dans ma lecture de la parole de Dieu, plus il va venir à moi. Et plus il vient à moi, plus sa présence devient réelle dans ma vie. Et plus sa présence devient réelle dans ma vie, plus mon éclairage de la parole de Dieu devient grand, et plus la passion pour Dieu commence à naître. Mon cœur commence à brûler. Vous savez, ce n'est pas par hasard qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, se mettent à servir Dieu à temps plein. Ça vient avec la qualité de la relation avec. Être passionné par Dieu, c'est avoir le feu qui brûle dans notre cœur pour Jésus. J'avais un frère, on ne pouvait pas l'empêcher. Il voyait des gens dehors, on était dans la rue, il voyait des gens autour de lui. Dès que les gens venaient nous dire bonjour, il ne pouvait pas s'empêcher. Il devait vérifier auprès de ces gens-là s'ils connaissent Jésus. Parfois, c'était même embêtant parce que tu as un supérieur hiérarchique qui t'a déjà interdit de parler de Dieu. Et le voilà qui commence à parler de Dieu. On parlera prochainement. Mais il faut parler de Dieu. C'est sa passion. Être passionné de Dieu, c'est avoir un désir et un besoin de Dieu qui va influencer et même modifier ma vie quotidienne. Voilà quelque chose que je voulais juste partager comme premier point. Comment naît une passion pour Dieu? La passion pour Dieu, elle naît quand la présence de Dieu devient vivante en nous. Parce que cette présence amène aussi l'éclairage de la parole de Dieu. Mais pour que cette présence soit vivante, il faut que Jésus devienne aussi le centre de nos intérêts, à travers la prière, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers cette recherche de lui, cette envie de lui. Apprenons à mettre du temps à part. Une chose que j'avais apprise à un groupe d'ados à Namur, je leur avais dit, vous êtes pendant les vacances, vous consacrez sur une semaine, deux semaines de vacances, vous prenez un seul jour, vous fermez tout, vous restez dans votre chambre. Tout ce que vous faites, c'est lire votre Bible, écouter de la musique chrétienne et prier. C'est tout. Et puis, je leur ai dit, on va faire ça ensemble, on fixe un jour, on bloque tout le monde dans sa chambre, tout le monde chez lui, et on prie. Je vous prie de croire que quand on a discuté avec ces ados, ils avaient un autre rapport avec Dieu. Et plus encore, ces ados continuent à le faire encore. C'est devenu quelque chose qu'ils font régulièrement maintenant dans leur vie. Ils bloquent un temps pour prier, pour être avec. Malheureusement, le temps passe. Je vais essayer en 10 minutes, de passer au deuxième point, dernier point. Quels sont les effets d'un cœur passionné pour Dieu? Qu'est-ce que ça entraîne dans le cœur, comme engagement dans le cœur dans un cœur passionné pour Dieu? Parenthèse. Dieu veut que nous soyons ardents. Pour lui. Vous connaissez ce texte d'Apocalypse qui dit, parce que tu n'es ni tiède ni bouillant, je te vomirai. Vous connaissez ce texte? C'est un texte qui dit simplement, Dieu reproche à, je ne sais plus c'est quelle église, parce que je n'ai pas regardé ça, excusez-moi, je n'ai pas regardé, mais Dieu reproche à cette église de s'être tiédie complètement, de n'être ni chaud ni froid, d'être tiède. Et Dieu va leur dire, à cause de ça, je te vomirai. Et la clé dans ce texte-là, pour retrouver le caractère bouillant pour Dieu, c'est quoi? C'est retrouver le premier amour. Le premier amour. C'est vrai, hein? Ceux qui ont été amoureux savent très bien que le premier amour, c'est le premier amour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais évidemment, il ne faut pas seulement parler des amoureux mariés ou quoi. Même votre premier amour, je ne sais pas moi, votre première voiture, votre premier ballon, votre premier jouet, votre premier truc. Premier match de basket, non, on ne va pas dire ça. Ça, c'était un peu stressant pour David. Son premier match, c'est ça, hein? Le premier amour. Quels sont donc les effets? Nous allons reprendre le texte rapidement et lire la partie suivante. Vous allez voir ce qui se passe. Regardons ces disciples dont on vient de parler, n'est-ce pas? Ceux qui ont dit que leur cœur brûle au-dedans d'eux. Regardons maintenant ce qu'ils font après ce contact avec Jésus. Ok? Du verset 33 au verset 48, j'espère ne pas pouvoir être très long dans le développement. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit les yeux, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute nation, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Voyez les faits? Leur cœur brûle. La passion est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attendent pas. Tout de suite, ils retournent vers les autres. Le désir de glorifier Jésus est tellement grand. Glorifier Jésus en annonçant sa résurrection est tellement grand qu'ils partent tout de suite. Je vous ai dit la distance. Hein? C'est comme la fameuse distance, mais ils vont le refaire dans l'autre sens pour aller annoncer. La volonté de témoigner de Jésus aux autres, de le louer, de l'adorer, quelque chose qui bouge dans le cœur, quelque chose qui ne les laisse plus dans l'état de tristesse où ils étaient auparavant. Ils étaient bien tristes. Mais les voilà maintenant dans un enthousiasme plus grand. Ce qui est fort ici, c'est l'effet boule de neige. Plus je me passionne pour Dieu, plus sa présence devient grande. Et ici, cette présence va se manifester dans la communauté des croyants, puisqu'on va voir que maintenant, c'est avec toute la communauté des disciples qu'il va maintenant, Jésus va se manifester. Et là, encore une fois de plus, sa présence va encore entraîner un éclairage, la parole de Dieu. Il va leur ouvrir encore les yeux. Et ils vont comprendre maintenant, cette fois-ci, en tant que communauté, en tant que groupe, ils vont comprendre la parole de Dieu. Ils vont comprendre, ils vont avoir l'intelligence ouverte pour comprendre les Écritures saintes. Hier, j'étais au colloque du centre c'est le rassemblement de nos églises, des raisons de nos églises d'association. C'était à Charleroi-Marcinelle. Et le pasteur Philippe Binon a parlé de la nécessité d'évangéliser par la proclamation de l'Évangile. La question, c'est qui pourrait le faire? Qui pourrait donc proclamer? La réponse ici, c'est un cœur passionné, bien sûr, un cœur passionné par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce cœur-là qui va avoir un trésor à partager et qui ne va pas s'arrêter à dire « Oh, c'est pas important ». Non. C'est quelque chose qui brûle au-dedans de lui. Il va le dire. Exactement comme le psalmiste. Des paroles, des charmes bouillonnent dans son cœur. Il dit « Mon œuvre est pour le roi ». Psaume 45 que nous avons lu au début du culte. Le cœur brûle. Une envie de communiquer. Pas communiquer simplement les paroles de Dieu, mais une envie de communiquer Dieu, de faire connaître la personne même de Dieu, de parler de Dieu lui-même. La question aussi, l'autre, je vais terminer avec cette réflexion. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'aujourd'hui on a le choix de ne pas annoncer l'Évangile? Pensez-vous? Répondez à ma question, soyez spontané. Est-ce qu'on a le choix de ne pas annoncer l'Évangile aujourd'hui? Répondez. On a le choix? On a le choix? Oui, non. Non, dites-moi vous, votre point de vue à vous. Est-ce qu'on a le choix ou pas? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si nous nous taisons et qu'on n'annonce pas l'Évangile, nous allons régresser. On va disparaître. L'islam est en train d'avancer. Vous savez que dans ce pays, l'islam est à combien de pourcents maintenant? Ils sont à plus de 700 000 personnes. Nous sommes à combien, nous? Pas même plus de 300 000. Et l'islam avance. Parce que l'islam fait le boulot d'évangéliser. Eux, ils viennent avec leur Coran, ils donnent aux gens. En avant. Et même s'il ne faut pas ça, vous avez une dette, vous avez des problèmes, ils vous donnent l'argent, ils disent, viens à la mosquée, mon frère. Nous, on a la parole de vie, on n'a pas le choix. Sinon, l'Europe va appartenir au diable. Point barre. Sinon, demain, vous serez empêché même de citer le simple nom de Jésus. On n'a pas le choix. Nous avons besoin d'avoir un cœur passionné pour Dieu. Un cœur passionné qui parle de Dieu. Un cœur qui s'engage pour Dieu. Oh, je sais bien que tout le monde n'est pas un parleur. Tout le monde n'a pas toujours facile à parler, ni à créer des contacts avec les autres. Mais priez, priez mes amis, c'est de notre ressort à nous tous. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Déjà que l'Europe s'est beaucoup déchristianisée, aujourd'hui vous avez entendu qu'officiellement, depuis cette année, il l'a un peu confirmé, on n'appelle plus les vacances de Toussaint, c'est vacances d'automne. On ne dit plus vacances de Noël, on dit vacances d'hiver. Et c'est comme ça que ça va continuer. Vacances de Pâques, ça ne sera plus vacances de Pâques, ça va être vacances de printemps. Pourquoi croyez-vous qu'on fait tout ça? On a déjà enlevé les crucifix des administrations. On nous a déjà, professionnellement, tous ceux qui sont des fonctionnaires de l'État, il leur est interdit de parler de Dieu. On dit que nous ne devons pas faire du prosélytisme. Mais c'est quoi le prosélytisme? C'est quoi, dites-moi? C'est quoi le prosélytisme? Vous savez, ce que je fais ici, si je le fais dans la rue, même si je parle aux maisons, c'est du prosélytisme. Hein? C'est quoi le prosélytisme? Mes amis, ayons l'œil ouvert. Demandons à Dieu qui nous passionne pour lui, afin que nous puissions parler de lui. Afin que nous puissions évangéliser, que nous puissions prêcher. Demandons que Dieu nous passionne de lui, afin que l'amour que nous allons avoir pour Dieu, ça soit le témoignage de notre vie. Il y a des gens qui se convertiront, pas parce que vous allez leur parler, mais parce qu'ils vont voir votre vie. Votre vie va être telle que vous dites, waouh, j'aimerais bien ce Dieu-là aussi dans ma vie. Je l'ai connu quand j'étais jeune. À l'internat où j'étais, nous étions avec un jeune homme à qui on n'avait jamais parlé de Dieu. On n'a pas eu le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on était tellement occupés à évangéliser ailleurs que celui qui était à côté de nous, à côté, on l'a pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, alors que nous voulions partir à l'école, il a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et on a dit, on t'écoute. Il a dit, je voudrais devenir chrétien. On a dit, mais comment ça se fait? Il dit, mais je vous ai vu vivre. J'aimerais bien vivre avec le même Dieu que vous. Ce garçon est devenu chrétien jusqu'à aujourd'hui. Notre vie peut parler de Dieu. Mais ce n'est pas une vie froide de Dieu. Ce n'est pas une vie indifférente de Dieu. Ce n'est pas une vie où Dieu a une petite place, point barre. C'est une vie où Dieu a toute la place. Ce matin, c'est ce que je voulais un peu partager. Dieu peut devenir une passion pour nous dans nos vies. Il y a une place à lui donner. Je dirais même, il y a toute la place à lui donner. Prions. Nous te recommandons, Seigneur, cette année encore une fois de plus, et aide-nous à ce que ta parole soit vivante au milieu de nous et nous aide à aller de l'avant. Seigneur, ce que nous te demandons le plus, Seigneur, avec le temps de vie que nous avons encore, le temps que tu nous donnes à vivre sur cette terre, Seigneur, nous te supplions de transformer nos vies, de les remplir de toi, Seigneur. Nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui qui a été manifesté. Seigneur, viens nous remplir de ton esprit, Seigneur. Donne-nous de brûler au-dedans de nous pour toi, Seigneur. De pleurer quand tu pleures. De rire quand tu ris. De faire bouger les choses avec une foi vivante, puissante, agissante. De croire à l'invisible, à l'impossible. De croire que tout est possible, Seigneur. De croire que ton œuvre peut encore devenir puissante dans cette Église. De croire que de nos fragilités, tu peux nous rendre forts, Seigneur. De croire que nous pouvons, Seigneur, être plus que vainqueurs. De croire que nos maladies, nos obstacles divers, peuvent être des occasions de glorifier ton nom et de manifester ta grâce. Fais-nous réussir cette année, Seigneur. Donne-nous des cœurs passionnés pour toi. Amen.